J'aimerais parler sur la prédication de Jonas, dans Jonas chapitre 3 et verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces termes. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et des grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périrons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Il nous arrive tous de traverser des échecs dans la vie. On n'a pas obéi finalement à la volonté de Dieu. On s'est égaré dans un chemin qui n'était pas le bon. Les choses ont mal tourné. Peut-être on croyait qu'en fuyant la volonté de Dieu, Dieu allait nous laisser tranquilles. Mais non, parce qu'on ne peut pas être tranquille en dehors de la volonté de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Il a fait ses erreurs. Il a choisi la mauvaise route. Il est allé à l'opposé du plan de Dieu pour sa vie. Mais Dieu n'a pas abandonné son serviteur. Il lui a permis de revenir. Il a demandé pardon. Et puis, finalement, il a été utilisé par Dieu dans sa grâce. La première chose que je vois au verset 1, c'est que Dieu nous donne une seconde chance. Le verset dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Eh oui, il y avait eu une première fois, si vous lisez le chapitre 1 et les versets premiers, une première fois, Dieu s'était adressé à Jonas dans les mêmes termes. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Donc, il était nécessaire que Jonas revienne au point de départ. Il a eu son parcours, il a fait ses erreurs, il a demandé pardon à Dieu dans le ventre du poisson, et Dieu l'a ramené à l'endroit où il n'aurait jamais dû quitter. C'est le lieu où il fallait qu'il aille, c'est-à-dire à Ninive. Et là, il lui donne une deuxième chance. Il a connu son temps d'errance loin de la face de l'Éternel. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Il a compris des choses sur lui-même, sur sa désobéissance, sur son manque de foi, sur son manque de compassion, parce qu'il n'aimait pas ce peuple de Ninive. Et puis, c'est finalement là, dans cette obscurité, dans le ventre du poisson, qu'il s'est repenti, qu'il est revenu vers Dieu. C'est là que son cœur s'est ouvert et qu'il a appris à obéir. Et nous aussi, frères et sœurs, nous devons apprendre à obéir à la parole de Dieu, même si elle n'est pas dans nos pensées, même si, comme Jonas, elle nous paraît impossible à réaliser, nous préférons fuir. Mais regardez l'exemple de Jésus dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Il a appris, et ça c'est Jésus qui est notre modèle, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire que si Jésus a dû apprendre l'obéissance, à combien plus forte raison nous devons obéir et apprendre à obéir aux commandements de Dieu qui ne sont pas faciles. toujours à mettre en œuvre, mais la désobéissance produira l'égarement, les échecs, les difficultés, les tempêtes, les tourments, comme Jonas a connu. Mais Jonas a appris l'obéissance alors qu'il était dans le creux de la vague, alors qu'il était sur le point de mourir, dans le ventre du poisson, bien, il a appris l'obéissance. Eh bien, Dieu utilisera des moyens pour nous apprendre l'obéissance, parce que sans l'obéissance, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc là, il a changé d'attitude. Jonas est revenu à Dieu de tout son cœur. Et quand nous changeons d'attitude, et si vous revenez à Dieu de tout votre cœur, il vous donnera une deuxième chance. Mais ça demande une repentance. Ça demande de demander pardon à Dieu et ça demande de revenir à Dieu. Ce passage nous permet de comprendre comment Dieu agit envers nous. Parce que Dieu, c'est comme un père. Il aime ses enfants. Il n'est pas là pour nous enfoncer, il ne se réjouit pas de nos erreurs, il est là pour nous tendre la main, pour nous relever. Il veut nous encourager. Vous voyez, si vous avez des enfants, quand ils sont tout petits, ils ne savent pas marcher au début. Ils commencent à ramper, ils commencent à essayer de se déplacer. Et puis un jour, ils vont faire leur premier pas. Et là, les parents, ils sont là derrière les enfants. Allez, allez, on les encourage. Et si l'enfant trébuche, les parents ne vont pas enfoncer l'enfant en lui disant « Tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas un enfant normal, tu n'arrives pas à marcher. » Non, ils vont le relever et puis ils vont lui dire « Allez, vas-y, continue, fais tes premiers pas. » Voilà, les parents, ils encouragent les enfants. Eh bien, Dieu, il fera pareil avec nous. On est tombé, on est en train de ramper. Et il va nous encourager, il va nous relever et nous permettre de faire nos pas avec lui. Plusieurs croyants ont eu besoin de cette deuxième chance. Vous vous rappelez de cette histoire, lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, il est resté 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu et il a reçu les 10 commandements sur 2 tables de pierre. Mais pendant ce temps, dans la vallée, le peuple commençait à douter, à s'impatienter. Ils ont fait un veau d'or. Et c'est même Aaron qui était pourtant le leader spirituel. C'était le souverain sacrificateur quand même. C'est lui qui a fait le veau d'or. Et quand Moïse redescend, il entend des bruits. Il croyait que c'était un bruit de combat, mais c'était une fête. Ils avaient organisé une fête autour du veau d'or. Et là, il a pris les 2 tables quand il a vu ça et il les a jetées par terre et elles se sont brisées. Ça veut dire que c'est comme si le peuple ne voulait pas des commandements de Dieu. C'était un échec. Mais Dieu n'a pas voulu laisser le peuple dans son échec et il a dit à Moïse, retourne dans la montagne et à nouveau 40 jours. Et il y a eu une deuxième chance. Parce que s'il n'y avait pas eu cette deuxième chance, le peuple d'Israël serait mort dans son péché. Mais Dieu leur a permis d'avoir un nouveau départ. Donc, il est retourné. Cette fois-ci, ils se sont tenus droits. Ils n'ont pas fait le veau d'or une deuxième fois. Ils ont compris la leçon. Ils sont restés fidèles. Et il y a eu les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Mais d'autres personnes dans la Bible ont eu besoin d'une deuxième chance. Il y a eu David qui a fâcheusement péché avec Bathsheba, qui était mariée pourtant à Uri, un de ses soldats. Et un enfant est né de cet adultère. Et cet enfant est tombé malade, parce qu'il y a eu une sanction de Dieu. Dieu a puni ce péché, et l'enfant était sur le point de mourir. Alors, David a prié, il a jeûné, mais il n'a pas réussi à faire changer Dieu d'avis. Cet enfant, ce premier enfant, donc, que David a eu avec Bathsheba est mort. Mais là encore, il y a eu une deuxième chance, parce que derrière cet enfant, il va y avoir un autre enfant qui s'appelait Salomon. Salomon qui est devenu roi à la suite de David. Et la Bible dit que Salomon fut aimé de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu a quand même utilisé cette situation où il avait chuté, où David avait péché, où il y avait eu quelque chose de mal, il s'était repenti. Il y a le psaume 51, qui est un psaume de repentance. C'est la prière de David, où il exprime son regret de son péché et avec pleurs, et il revient à Dieu de tout son cœur. Et il a eu un deuxième enfant, et c'est par Salomon, finalement, que la descendance, jusqu'à Jésus-Christ, va être opérée. Salomon, qui a été un des plus grands rois de la terre, qui a écrit deux livres de la parole de Dieu, l'Ecclésiaste et les Proverbes. Et puis, dans le Nouveau Testament, vous avez Pierre, qui était un des disciples du Seigneur, qui avait dit à Jésus, « Seigneur, même si tous t'abandonnent, moi, je ne te renierai jamais. » Et puis, quand ils sont venus l'arrêter, ben, il a fui, et par trois fois, il a renié le Seigneur. Mais il a eu besoin d'une deuxième chance. Jésus lui a tendu la main, parce qu'il a compris qu'il avait péché. Il a demandé pardon à Dieu, et Jésus lui a dit, « Paie mes agneaux, paie mes brebis, trois fois. » Pour les trois reniements de Pierre, trois fois, Jésus lui a tendu la main, « Paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. » Donc, comme pour Jonas, comme pour le peuple d'Israël, comme pour David, comme pour Pierre, nous avons tous besoin, un jour ou l'autre, d'une deuxième chance. Dieu ne nous laissera pas tomber par terre. Si nous nous repentons, si nous croyons que Dieu est fidèle et juste, si nous reconnaissons nos péchés, il nous tendra la main, il nous relèvera. Alors Jonas l'a vécu. Maintenant, il va prêcher, c'est le verset 2. Quelquefois, nous perdons beaucoup de temps, beaucoup d'argent, parce que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. En fait, tout ce qu'il a dépensé en voulant aller à Tarsis, à l'opposé de la volonté de Dieu, il a donc payé le billet du voyage. Il y a eu beaucoup de biens qui ont été perdus dans cette affaire parce qu'ils ont jeté la cargaison par-dessus bord. Il y a eu beaucoup de dommages. Eh bien, tout cela, ça n'aurait jamais dû arriver si Jonas était resté dans la volonté de Dieu. S'il n'avait pas fait son choix de partir à l'opposé. Donc, en fait, il revient exactement au point de départ. « Lève-toi, va à Ninive la Grande, proclame-y la publication que je t'ordonne. » Cette fois-ci, Jonas ne va pas désobéir. Et on voit ici l'efficacité du message de la parole de Dieu. Dieu ne demande pas à Jonas d'aller convertir les gens, mais il lui demande d'annoncer la parole de Dieu. Parce que nous, on ne peut pas convertir quelqu'un à Dieu. Mais la parole de Dieu peut toucher les cœurs parce que la parole de Dieu, c'est une semence de vie. Et quand vous témoignez à quelqu'un de ce que Dieu a fait dans votre vie, vous semez une parole de vie. Alors peut-être vous n'allez pas voir le fruit tout de suite. C'est un petit peu comme quand on sème des grains de blé en terre. On voit pas, ça ne germe pas tout de suite instantanément, mais il y a quelque chose qui a été semé. Et après, en priant, eh bien, nous prions pour que Dieu produise ce fruit dans les cœurs. Alors Jean chapitre 16, verset 7, nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et qu'est-ce qui se passe maintenant que Jésus est remonté au ciel? Il a donc envoyé le Saint-Esprit, et quand nous annonçons la parole, quand nous témoignons de ce que Jésus a fait dans notre vie, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs pour convaincre ces cœurs de péché, de justice, de jugement. Parce que s'il n'y a pas cette conviction de péché, en fait, la personne ne peut pas se convertir, se repentir, elle est bloquée par ses raisonnements. Les gens ne se sentent pas vraiment pécheurs. Les gens se disent, bah, tout le monde le fait, donc pourquoi pas moi, puis c'est pas si grave. Donc on a toujours des excuses. Mais si on réalise qu'on est pécheur, c'est-à-dire si le Saint-Esprit nous le révèle et nous le fait comprendre, c'est spirituel, alors on ressent le besoin d'être sauvé et on demande pardon à Dieu. Comme l'homme est tellement éloigné de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va le convaincre de péché. L'homme ne peut pas se convertir comme ça. Il faut la grâce de Dieu. Il lui faut le secours du Saint-Esprit. Il lui faut une intervention surnaturelle, spirituelle. C'est ce qu'on appelle la conviction de péché. C'est ça qui va le pousser à la repentance. Donc tant qu'on est dans le monde sans Dieu, on ne réalise même pas qu'on est pécheur. On ne réalise même pas qu'on est perdu. Mais par la grâce de Dieu, parce que Jésus a envoyé le Saint-Esprit, alors il y a des cœurs qui sont touchés par la parole de Dieu et ils se repentent, ils réalisent qu'ils sont pécheurs. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. On est tout de suite après la venue du Saint-Esprit. Pierre, n'avait jamais encore annoncé le message de l'Évangile. Pour la première fois, étant rempli du Saint-Esprit, donc il vient d'être baptisé dans le Saint-Esprit, il annonce la croix, il annonce Jésus-Christ, il parle de la repentance, du pardon des péchés. Et le Saint-Esprit a convaincu les cœurs, 3000 personnes se sont converties au Seigneur. Ce n'était pas l'œuvre de Pierre, ce n'était même pas simplement les mots, c'était l'action du Saint-Esprit qui vient briser le cœur rebelle et dur qui est fermé à la parole de Dieu. Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole, » c'est Dieu qui parle, « la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu est puissante, elle sort de la bouche de Dieu, elle va accomplir ses desseins, sa volonté, il va y avoir des convictions de péché, il va y avoir des repentances, il va y avoir des changements de cœur, et elle va ainsi faire son œuvre parce que la parole de Dieu est vivante. J'ai relevé 7 images de la parole dans la Bible. Première image, dans Jérémie 23, c'est un feu. C'est un feu qui purifie. Le feu qui purifie les cœurs, qui purifie les vies, qui purifie les âmes. Deuxième image, dans Jérémie 23, toujours, c'est un marteau qui brise le roc. Troisième image, c'est une lampe qui nous éclaire sur notre chemin. Quatrième image, c'est un pain qui nourrit notre âme. Cinquième image, c'est une épée qui nous permet de combattre le tentateur. Sixième image, c'est un miroir qui révèle l'état de notre cœur. Septième image, c'est comme une pluie qui arrose et qui rafraîchit dans un désert. Voilà, tout cela, on le retrouve en feuilletant la parole de Dieu, vous voyez toutes ces images de la parole. J'entendais ce témoignage d'un frère Gédéon. Ce sont ces chrétiens qui vont distribuer la parole de Dieu, ces petits évangiles bleus, souvent à la sortie des lycées ou des facultés. Ils vont distribuer cette parole et la pensée des Gédéons, du fondateur des Gédéons et de cette association de chrétiens, c'est que c'est la parole, c'est en lisant la parole que les cœurs vont être touchés. Et effectivement, il donnait ce témoignage qu'un jour, en travaillant sur un toit, un couvreur a trouvé un de ces petits évangiles des Gédéons. C'était quelqu'un qui l'avait jeté. Il n'en voulait pas, il l'avait jeté en fait en l'air et il était tombé sur le toit. Et ce couvreur, il venait travailler sur le toit, il a trouvé le petit évangile des Gédéons, et bien il l'a pris. Lui, il ne l'a pas jeté, il l'a pris. Vous voyez comme quoi Dieu se sert des gestes de révolte, de rébellion. Il a dit, c'est comme s'il disait, mais moi j'en veux pas de cet évangile, il l'a jeté en l'air. Et bien, il fallait qu'il tombe précisément à cet endroit-là, parce que le couvreur, ben, c'est là qu'il allait travailler justement. Il l'a pris, il l'a lu, il a été touché par le message de ce livre. Vous voyez, la parole, c'est un homme qui ne connaissait pas l'Église. C'est un homme qui n'était jamais entré dans une église évangélique, qui ne connaissait pas le message de la parole de Dieu. Mais la parole des Gédéons, donc en fait c'est les évangiles, ben, l'a touché. Puis à la fin de ce petit livret, il y a une prière et on encourage les gens à aller à l'Église, etc. Il y a un petit message d'exhortation à la fin. Ben, c'est ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'on a eu son témoignage, en fait. Il s'est vraiment converti, tout simplement par une semence. Une semence de la parole de Dieu. On pourrait dire que c'était au hasard, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu, parce que la personne qui l'a lancé n'aurait jamais imaginé que quelqu'un allait le prendre. Mais comme quoi Dieu dirige tous les événements comme il le veut, et il fallait que ce petit évangile tombe à cet endroit. J'ai aussi entendu ce témoignage d'un homme qui s'était converti à l'islam. Il n'était pas musulman à l'origine, il était catholique non pratiquant. Mais en vivant en pays musulman, il s'est converti à l'islam. Il a épousé une femme qui était musulmane. Lui-même s'est converti à l'islam. Et il a fait les études pour devenir donc un des responsables religieux, un imam. Il fallait faire des études, donc il a étudié le Coran, il savait lire l'arabe et tout, c'était pas sa langue l'arabe, Il était français, tout simplement, il s'est converti à l'islam, il a appris l'arabe, mais il est devenu radical, un musulman radical. Et puis, dans un de ses périples, il est tombé dans un monastère. Et dans le monastère, il y avait un moine qui avait oublié une Bible. Il avait laissé une Bible sur la table. Et bien lui, il a volé la Bible. Il l'a cachée sous son manteau et il a volé la Bible, tout simplement. Il était attiré par ce livre. Il connaissait rien de Dieu, de la Bible. Il avait rejeté toutes ces choses de la religion, mais il a volé la Bible. Eh bien, voyez, ce vol, c'est pas bien un vol, mais finalement, c'était bien parce qu'il l'a lu à la maison et il a commencé à être au contact de la parole vivante et ça a chamboulé son cœur. Lui qui était musulman convaincu, rien qu'avec la Bible, sans connaître l'Église, il connaissait absolument pas les Églises, il connaissait rien de la foi chrétienne, mais ce livre l'attirait et il a découvert l'amour de Dieu. Il ne connaissait pas l'amour de Dieu. Il ne connaissait pas l'amour de Jésus, il ne connaissait pas ces choses. Et c'est devenu vivant, lui. Mais le problème, c'était qu'il était engagé à être imam. Et il savait que si il en parlait, ça, il allait y avoir un retour de bâton. Donc, il a essayé d'en parler à sa femme, catastrophe. Sa femme n'en voulait pas du tout. Ça a semé un tel désordre. Il a dû fuir. Son fils voulait le tuer à un moment donné, il a dû fuir, il a traversé le désert. Il raconte que pour sauver sa vie, il est parti juste avec une gourde dans le désert. Et en fait, il n'avait pas de quoi vivre plus qu'une semaine ou même pas quelques jours quoi, avec sa gourde. Et en fait, il raconte ce miracle qu'il a dû traverser ce désert, mais pendant plusieurs semaines, ça a duré peut-être un mois, et il a dit que la gourde, en fait, elle ne s'est jamais vidée. C'est-à-dire qu'il buvait, il buvait, il buvait, et il y avait toujours de l'eau dans la gourde. Il y a eu un miracle, ce qui lui a permis de rester en vie. Et il a traversé la Méditerranée pour venir en France. Et comme il ne connaissait pas d'église, il ne savait pas ce que c'était, il a cherché des églises. Alors, il est tombé dans une église orthodoxe, mais il ne connaissait pas ni les catholiques, les orthodoxes, les protestants. Il est allé chez les orthodoxes et il a dit qu'il a vu dans la Bible que quand on croyait en Jésus, on était baptisé. Et il a demandé le baptême, comme ça, tout simplement. Alors ils ont vérifié s'il était vraiment converti, ils ont pris connaissance avec lui, et finalement ils l'ont baptisé, et il a vraiment donné son cœur au Seigneur. Et aujourd'hui il annonce la parole parmi les musulmans. C'est un témoignage puissant de ce que Dieu peut faire dans une vie, rien qu'avec une parole qu'il a volée, et qui avait la vie, en fait, il ne savait pas qu'il était au contact de la vie. Voilà, ce sont des témoignages vrais, que j'ai pu entendre de personnes qui les ont vécues et qui nous montrent ceci. On arrive au verset 5. La conversion de Ninive, toute une ville se convertit. Tout à l'heure, on disait quand Pierre a prêché, 3000 personnes se sont converties. Vous voyez, quand le message est annoncé, il y a l'action de l'Esprit et là, c'est toute une ville qui est touchée. Et on trouve toujours deux éléments dans la conversion. C'est un, la repentance et deux, la foi. La repentance, parce que ça consiste à réaliser qu'on est pécheur et séparé de Dieu. Sans repentance, il n'y a pas de vie avec Dieu. Mais plus nous nous approchons de Dieu, plus nous allons réaliser notre péché. La plupart des gens ne s'estiment pas mauvais. Mais regardez Pierre. La première fois que Jésus voit Pierre, que Pierre voit Jésus, dans Luc chapitre 5, verset 8, il y a eu la pêche miraculeuse, puisque Jésus a fait le miracle, là il y a eu beaucoup de poissons, et au verset 8 il dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En vous approchant de Jésus, vous allez réaliser combien vous êtes pécheur, séparé de Dieu, combien on est noir dans nos péchés. Il a réalisé en fait, en s'approchant de Jésus, combien il était loin de Dieu. Ça, c'est la première chose. Si on n'a pas la repentance, on ne peut pas marcher avec Dieu. Et la deuxième chose, c'est la foi. Repentance plus foi, c'est ça la vraie conversion. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est ce qui va vous relier à Dieu. C'est ce qui va vous permettre de marcher jusqu'au bout On dit qu'on marche par la foi et non par la vue, mais jusqu'au bout, nous marchons par la foi. La foi nous permet de croire dans un Dieu que nous ne voyons pas. La foi, c'est croire dans l'invisible. Nous n'avons pas vu Dieu, mais nous pouvons le ressentir dans notre cœur. Nous pouvons l'écouter. Si nous tendons l'oreille, il va nous parler. Et nous pouvons lui parler dans la prière. Tout se fait par la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas marcher dans la vie chrétienne. La repentance plus la foi, c'est la vraie conversion. Regardez Jésus, Marc chapitre 1, verset 15. Le premier message que Jésus donne après son baptême, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, Marc 1, 15, il disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. » Premièrement, repentez-vous. Il prêche la repentance, c'est-à-dire demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Et deuxième, croyez, la foi, message de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que fait Jésus ? Un, la repentance. Deux, la foi. C'est la vraie conversion. Jésus explique que c'est le moyen pour nous d'aller vers Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de... On ne peut pas aller vers Dieu autrement que par la repentance et la foi. Malgré son message très puissant, tout le monde ne s'est pas converti. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut l'accepter. Il y a la liberté. La grâce permet qu'on saisisse le message, mais certains le refusent. Et certains s'opposent au Saint-Esprit. Regardez Matthieu 23, 37. C'est Jésus qui prie sur Jérusalem, cette ville, qui dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui se sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ?» Ce sont des gens qui ont résisté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voulait les sauver. Le Saint-Esprit voulait les amener dans une autre dimension que la religion dans laquelle ils étaient empêtrés. Mais il dit, vous n'avez pas voulu. Et à un moment donné, Jésus prêche le message, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Mais si le cœur est dur et s'il ne veut pas, eh bien c'est comme ici, vous ne l'avez pas voulu, il résiste au Saint-Esprit et il passe à côté du plan de Dieu. La conversion, c'est ça. La conversion, c'est se détacher du péché et s'attacher à Dieu. Alors, on voit bien ce mouvement dans 1 Thessaloniciens 1,9. C'est Paul qui le dit. Il écrit aux Thessaloniciens, « On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. » Alors, on parle bien de la conversion, demi-tour, changement de vie. Comment ? Un, en abandonnant les idoles, ça c'est la repentance. On demande pardon pour nos péchés, pour l'idolâtrie, pour faites tout ce qui avait pris la place de Dieu. Et deux, pour servir le Dieu vivant et vrai, ça c'est la foi. C'est par la foi que nous servons, c'est par la foi que nous croyons que Dieu est vivant et vrai. On a l'exemple de cet homme Zachée, qui était pourtant un homme très riche et qui avait un vide dans son cœur, et qui, lorsqu'il entend parler de Jésus, il voulait le voir. Donc on voit qu'il y avait quelque chose qui l'attirait vers Jésus. C'est Jésus qui lui dit « Aujourd'hui, il faut que j'entre dans ta maison. » Mais Zachée était libre. Il aurait pu dire « Non, Seigneur, je ne peux pas aujourd'hui. » Ou « Je ne suis pas prêt. » Ou peut-être une autre fois. Mais la Bible dit qu'il le reçut avec joie. Donc c'est la décision de Zachée. Il y a un vide que l'argent ne pouvait pas combler. Il avait besoin de Jésus. Il avait besoin que Jésus vienne chez lui. Et il l'a accepté. Ce n'est pas les relations de ses amis, ce n'est pas l'argent qui pouvait lui procurer cette paix, cette joie, c'était Jésus. Il a compris. Là, il va se repentir. Comment on sait que Zachée s'est repenti, qu'il a demandé pardon à Dieu et qu'il a changé de vie ? Parce qu'en fait, il dit ben, « Maintenant, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai tout ce que j'ai fait. » Et ça, c'est les fruits d'une repentance. C'est Jean-Baptiste qui disait « Produisez un fruit digne de la repentance. » S'il n'y a pas de fruit, s'il n'y a pas de changement, c'est qu'il n'y a pas eu de repentance. il n'y a pas eu de nouvelle naissance, il n'y a pas eu de conversion. Mais quand, comme il y a eu le fruit de la repentance, Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Si vous êtes partenu à Jésus, il y aura du fruit. C'est le fruit de la repentance. S'il n'y a pas de fruit, c'est qu'il n'y a pas eu la repentance et la foi, il n'y a pas eu la conversion. La conversion va produire un fruit. Ce fruit, c'est un changement de vie, un changement d'attitude. Je termine avec le verset 10, qui a posé beaucoup de questions, même aux chrétiens encore aujourd'hui. C'est la repentance de Dieu. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, donc il y a eu cette repentance collective, en fait, qui a amené tout un peuple à demander pardon à Dieu pour ses péchés et à se tourner vers Dieu. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, voilà, ils demandent pardon, ils se repentent, ils croient. Alors Dieu se repentit, et maintenant la repentance est du côté de Dieu, du mal qu'il avait résolu de leur faire. Qu'est-ce que cette repentance ? Est-ce que ça signifie que Dieu s'était trompé et qu'il se repent ? Non. La repentance de Dieu n'a rien à voir avec notre repentance à nous. Ça n'a pas le même sens. On le voit aussi, par exemple, pour la sainteté. Quand Dieu dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », nous savons que la perfection de Dieu est d'un autre niveau que notre perfection à nous. Elle est au-delà. Ce n'est pas le même niveau. Alors, la repentance pour Dieu, ça signifie que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés comme il aurait le droit de le faire, mais qu'il nous pardonne. C'est une image pour parler d'un changement de jugement par rapport à nous. Un petit peu comme si on utilisait des expressions humaines pour parler de Dieu. Mais si une personne se détourne de Dieu, par contre, elle tombera sous un jugement et elle peut connaître la perdition. Donc la repentance de Dieu, c'est simplement une expression qui utilise un langage humain pour parler de Dieu, assez maladroit souvent notre langage, pour parler des choses de Dieu qui est parfait, qui est tellement élevé. Mais c'est pour montrer qu'il avait résolu de détruire cette ville à cause de ses péchés, mais que finalement il a décidé de faire grâce à cause de la repentance du peuple. Donc changement d'attitude. En conclusion, Dieu nous accordera aussi une deuxième chance si nous nous repentons sincèrement. Un échec n'est pas définitif. Peut-être qu'il y a eu un échec dans votre travail, dans vos relations familiales, dans votre couple, dans votre vie professionnelle, mais Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Si nous avons désobéi, on peut se repentir. Dieu veut encore nous utiliser pour son service, on le voit avec Jonas. Dieu aurait pu dire, maintenant c'est fini, tu as été désobéissant, je ne veux plus t'utiliser. Il lui a fait grâce. Pourquoi ? Parce que Jonas était sincère. Il est vraiment revenu à Dieu de tout son cœur. Vous pensez peut-être, oh ça n'en vaut plus la peine, j'ai lâché la main de Dieu, Dieu ne s'intéressera plus à moi. Vous êtes peut-être découragé, mais le Seigneur vous donne une deuxième chance. Il ne vous a pas oublié. Il permet des temps de désert. Un peu comme pour Jonas. C'est des temps où on va être en difficulté, c'est des temps où on va être comme dans le ventre du poisson. Mais ça, c'est pour nous faire réfléchir et nous ramener à Dieu. Je termine avec un verset qui dit que Dieu le souhaite, en tout cas, que tous viennent à la repentance. C'est 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire la promesse de son retour. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Voilà. Il ne veut pas que nous nous égarions, que nous périssions, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il est bon. Il est comme un père qui aime ses enfants et il veut qu'on arrive jusque-là. Et si nous sommes égarés, comme Jonas, nous nous sommes détournés, eh bien, il veut que nous revenions à la repentance. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide, on va prier. Merci Seigneur encore pour cet exemple dans ta parole où nous voyons combien la prédication de ta parole a su trouver le chemin des cœurs de toute une ville, de cette ville de Ninive où il y a eu des repentances en masse. Et nous croyons que par l'action du Saint-Esprit, tu peux encore toucher des cœurs durs, résistants, rebelles par des convictions de péché, afin de réaliser que on est pécheur et perdu sans toi. Seigneur, nous prions pour que dans notre ville aussi, dans notre entourage, dans nos familles, Seigneur, il y ait des repentances, des convictions de péché, que des yeux s'ouvrent. Et Seigneur, nous prions pour toutes ces semences, les paroles qui ont été semées, les Bibles, les évangiles, les traités qui ont été distribués, que toutes ces semences produisent du fruit pour ta gloire, afin que les cœurs soient troublés, tourmentés pour chercher Dieu, pour venir comme ce peuple de Ninive à la repentance. Et nous croyons que toi, tu feras grâce, tu donneras une deuxième chance à celui qui s'est enlisé dans un échec, à celui qui s'est égaré sur un chemin de détour, à celui qui n'a pas fait ta volonté. Seigneur, tu lui tends encore la main pour lui dire « Tu es mon enfant et je te donne cette deuxième chance. » Si nous venons avec un cœur repentant, si nous sommes sincères, il est le Dieu de la deuxième chance. Merci encore pour ta parole. Merci pour ces temps de prière. Que ton Saint-Nom soit béni. Amen.